Bonjour tout le monde. Vous n'êtes pas rassurés ce matin ou bien? Vous savez, quand Jésus était parti au ciel, les disciples qui étaient avec lui étaient un peu inquiets. Jusqu'à ce qu'il se posait beaucoup de questions. Tout ce qu'il nous a dit, est-ce que ça va se réaliser? Comme il est parti, est-ce que cette affaire qu'il nous disait, ça s'arrête ici-bas? Mais Dieu envoyait un ange pour le rassurer. Amen. Ce matin, dis à ton voisin, sens-toi rassuré. Tu es dans la présence de Dieu. Amen. Peut-être il n'est pas trop sûr. Dis à l'autre voisin, sens-toi rassuré, tu es dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu de son peuple. Et il dit que là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est là. Donc nous croyons de tout cœur qu'il est avec nous ce matin. Donc pendant qu'on continue à servir nos enfants du primaire, nous continuons ce matin notre série « Jésus et moi ». C'est une série que nous avons commencée et nous avons été richement bénis par différents enseignements que nous avons reçus jusqu'à date. Et avant de commencer, nous dépendons d'un seul homme, ou bien d'un seul homme, je voulais dire, c'est Jésus-Christ. Donc nous allons le prier pour lui dire ce matin, nous voulons encore une fois de plus t'écouter. Nous voulons que tu nous parles. Nous ne voulons pas écouter un homme, mais nous voulons écouter ta voix. Je voudrais que tu ouvres ta bouche, tu lui dis comme ça dans ton cœur pendant que je vais aussi prier ici. Seigneur, ce matin, nous te bénissons. Merci d'être au milieu de nous ce matin. Et quand tu es là, ta présence ne laisse personne indifférent. Ce matin, parle à nos vies, parle à nos cœurs. Permets-nous de saisir ce que tu as préparé pour chacun de nous ce matin et que nous ne sortions pas d'ici tel que nous sommes venus. Mais que nous puissions ressortir d'ici avec une vie transformée, une compréhension transformée, une vie prête pour ta rencontre. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. J'ai fait une remarque à quel point le téléphone est devenu très important et incontournable dans notre vie. Il suffit de recevoir une notification quelque part, on se précipite pour voir « Hey, qui m'a écrit ? Il faut que je réponde. » On ne peut plus vivre sans le téléphone. Est-ce qu'il arrive à certaines personnes de s'en passer du téléphone pendant toute une semaine ? C'est un peu difficile. Et lorsqu'on reçoit de la visite de quelqu'un chez nous, la première des choses, il nous dit « C'est quoi le mot de passe de ton Wi-Fi ?» Parce qu'il veut rester connecté, il ne veut rien rater. Donc le téléphone, c'est quoi? C'est un instrument qui nous permet de nous connecter au monde extérieur. Mais la question que je me pose ce matin, c'est quoi notre relation avec Jésus? C'est aussi une connexion qui ne doit pas simplement être juste. Une présence de dimanche à l'église. Notre rencontre avec Jésus ou notre relation avec Jésus ne doit pas être comme un diplôme qui est posté sur le mur où on se rappelle du bon vieux temps. Je me rappelle encore quand le Seigneur a sauvé ma vie, quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Je me rappelle de ceci. On vit notre vie chrétienne dans le passé. Mais la relation entre Jésus et moi, c'est une relation qui doit être vivante. Quand on parle de relation vivante, on parle de quelque chose qui vit, quelque chose qui est quotidien. Le pasteur Paul nous avait parlé ici que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas leur terme, mais il les renouvelle chaque matin. Donc notre relation avec Jésus doit être comme la connexion. Si on ne peut plus s'en passer de la connexion Internet, Alors, notre relation avec Jésus, on doit se poser la question, à quel niveau elle se trouve avec moi? Est-ce que j'ai le réseau là où je me trouve? Quand on se déplace, on essaye toujours de contrôler, oh, il n'y a pas de réseau ici. Est-ce que ma relation avec Jésus, j'ai toujours les barres de réseau sur mon téléphone? Ma relation avec Jésus ne doit pas être figée dans le passé pour continuer à penser que non, ce qui s'est passé, c'est ce que Dieu voulait faire avec moi. Mais ma relation avec Jésus, non seulement elle est vivante, c'est-à-dire elle est au quotidien, mais elle est aussi engageante. On parle d'une relation vivante et engageante. Pourquoi elle est engageante? Parce qu'elle ne laisse personne indifférent. Parce qu'il n'y a pas de neutralité dans cette relation. On ne peut pas être engagé avec Jésus, on est neutre. On ne peut pas être engagé avec Jésus, on fait ce qu'on veut. Mais dans notre relation avec Jésus, on voudrait à tout moment avoir de l'influence de sa vie dans nos décisions de tous les jours. Nous voulons avoir une incidence de cette relation avec Jésus dans tout ce qu'on peut entreprendre, dans les choix que nous devons faire. Cette relation doit trouver sa place. C'est pour cela qu'on parle d'une relation vivante et engageante. Parce que non seulement elle n'est pas figée dans le passé, elle se vit chaque jour, elle se vit chaque matin. Et j'ai vérifié ce matin, le mot de passe céleste n'a pas changé, c'est toujours Jésus. Amen. Ce mot de passe est toujours valide. Si tu arrives quelque part et qu'il n'y a pas de réseau, rappelle-toi qu'il y a toujours un réseau que tu peux te connecter là où les autres ne peuvent pas se connecter. Parce que quand on a le Wi-Fi à la maison, même si on ne le voit pas, on se rassure que oui, la connexion est là. Si tu arrives quelque part dans cette relation avec Jésus, même si les autres sont plus éloignés, pense toujours que non, il y a un mot de passe. Le mot de passe, c'est quoi? Jésus. Pour rester connecté dans cette relation qui est vivante et engageante. Et ce matin, je vais nous parler de trois choses. C'est quoi la relation vivante et engageante? La première des choses, c'est une relation qui n'est pas basée sur la routine. Ce n'est pas quelque chose de familier, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Je suis tellement habitué, non. La deuxième chose, je vais parler de la relation vivante et engageante avec Jésus. C'est quoi? C'est une relation où on est préoccupé, on s'occupe de ce qui le préoccupe. Qu'est-ce qui préoccupe notre maître? Qui nous rassemble ce matin? C'est Jésus. Mais qu'est-ce qui le préoccupe? Ce qui le préoccupe, on se sent préoccupé. C'est ça, l'engagement dans cette relation. Et je terminerai mon message en parlant de la troisième chose, c'est quoi? C'est cette relation où on vit, on dépend de lui, on vit pour lui. Paul disait, si je vis, je ne vis plus pour moi-même, je vis pour Christ. C'est Christ qui vit en moi. Donc c'est ça ce que nous allons essayer de comprendre ce matin dans cette relation. Dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 6, Paul, rassurant les disciples, il leur dit quelque chose. Il dit, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Donc, nous qui sommes rassemblés ce matin, nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ et nous marchons en lui. Et quand on dit « marcher en lui », il y a quelque chose que nous devons comprendre. La Bible dit dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 3, que deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus. Donc, si on marche avec Jésus, il faudrait qu'on s'entende des principes de notre parcours. Il faut qu'on s'entende comment est-ce qu'on va marcher avec lui. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont en retard de Jésus. Il y a certaines personnes qui sont figées sur quelque chose qui est passé, alors que Dieu veut déjà passer à une nouvelle chose, mais on reste figé dans ce qui s'est passé. C'est le cas de la montagne de la transfiguration. Quand Jésus avait pris quelques disciples, il leur a dit, « Allons prier. » Et quand ils ont vu Jésus se changer, transformer, ils ont dit, « Mais c'est mieux pour nous de construire trois tentes ici. On ne veut plus descendre. Le plan de Jésus n'était pas de construire 3 tentes. Le plan de Jésus était de passer à autre chose parce qu'il y avait la foule qui les attendait plus bas. Mais eux, ils sont restés figés dans ce qu'ils ont vu. Il y a beaucoup de personnes, Dieu t'a montré quelque chose, mais tu es resté figé dans ce que Dieu t'a montré et tu vis le passé, alors que Dieu est passé à autre chose. Dans la relation avec Dieu, il faut ne pas être en retard avec Jésus. Parce que si on est en retard avec Jésus, lui, il est déjà passé à autre chose, nous, on traîne le pas derrière. Si on n'est pas en retard, on peut être en avance sur Jésus. Être en avance sur Jésus, c'est quoi? C'est prendre ses propres initiatives, prendre ses propres décisions, sans consulter l'agenda de Dieu, sans consulter le plan de Dieu et commencer à agir dans ce principe. Pierre l'en a fait. Quand il s'était retrouvé dans le jardin, les assaillants qui étaient venus pour arrêter Jésus, il a sorti l'épée, il a tranché l'oreille. Ça, ce n'était pas le plan de Dieu. Il était en avance, il voulait protéger Jésus. Il voulait le préserver de la mort, mais ce n'était pas le plan de Dieu. C'était juste son initiative, c'était ses plans, c'était ses desseins. Alors, il y a certaines personnes qui, au lieu d'être en phase avec Jésus, sont un peu en avance de phase. Donc, ils le devancent dans ce qu'ils font. Ils prennent des initiatives qui ne sont pas forcément les initiatives de Dieu. Mais rappelons-nous toujours, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Notre relation avec Jésus, c'est une relation où nous devons marcher avec lui. Donc, marcher avec Jésus, c'est être en phase avec lui. C'est une relation quotidienne. C'est une relation qu'on peut vivre jour au jour. C'est une relation qu'on ne reste pas figé dans ce qu'il a fait, dans ce qui est passé, mais on commence à vivre une nouvelle relation avec lui. Parce que dans cette relation engageante avec Jésus, il faut que cette relation ne soit pas seulement question d'habitude. Parce que certaines personnes viennent dimanche parce que c'est l'habitude. Si je ne viens pas dimanche, ben je n'ai rien d'autre à faire, je ne sais où aller. Il y a certains qui pensent que l'église, c'est juste pour socialiser. Mais l'église, c'est le lieu là où on prépare les gens pour le ciel. La finalité de l'église, c'est l'enlèvement, c'est l'éternité. L'église qui ne vise pas l'éternité et qui vise des choses terrestres a raté la mission de l'église. Donc, lorsqu'on vient, on n'est pas seulement dans quelque chose de routine, mais on est dans quelque chose de découverte. On doit ne pas être dans la routine, parce que quand on est dans la routine, on connaît déjà ce qui va se passer. On sait ce que Dieu va faire. On sait qu'il va prêcher comme ceci. On sait que Dieu va faire cela. On est déjà habitué. Et la routine, c'est l'ennemi de l'avancement. La routine, c'est l'ennemi de la frustration. Parce que quand on est déjà habitué à une certaine routine, on est tanné, on est fatigué. Et quand on se fatigue, on va lâcher. La relation avec Dieu n'est pas une relation où on vit les mêmes choses, où on connaît déjà ce qui va se passer. Parce que si on reste dans la mentalité qu'on sait déjà ce qui va se passer, alors on ne peut plus découvrir quelque chose. On se dit qu'on n'a plus autre chose à faire parce qu'on est là depuis 10 ans. On est là depuis 20 ans, on est là depuis 30 ans. Je sais déjà ce qui va se passer. Je suis là depuis, je n'ai plus d'efforts à faire. Je pense que je suis arrivé. Mais la relation vivante avec Jésus, c'est une relation qui n'est pas basée sur ce qui est routinier. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 8, le verset 2, que si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu ce qu'il faut connaître. Si tu penses avoir le monopole de connaissance de qui est Dieu, si tu penses avoir toutes les révélations nécessaires parce que tu es là depuis, tu connais un certain nombre de choses, la Bible te dit que tu n'as pas encore connu ce que tu dois connaître. Même l'apôtre Paul, qui autrefois avait étudié la loi, connaissait bien les choses de la loi, mais il disait que tout ce qu'il considérait pour lui comme un gain, il les voit comme perte, parce qu'il est dans la quête de la connaissance de Christ. Il cherche à connaître qui est Christ. Parce que quand on veut connaître quelque chose, on n'est pas figé dans la mentalité. Quand on veut connaître quelque chose, on est dans un mode de curiosité. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire avec moi ce matin? Quand je quitte la maison pour venir écouter la parole de Dieu, il faut que je sois en mode de curiosité. Qu'est-ce que Dieu veut faire encore avec ma vie ce matin? C'est ça la relation vivante. Ce n'est pas une relation qui est figée où on sait déjà ce qui va se passer. On sait comment ça va se terminer. On n'a pas de fort, on ne veut rien connaître. Parce qu'un habitué est gêné quand l'inattendu survient. Quand quelque chose sort de l'ordinaire, on se dit, oh, c'est quoi? On ne s'attendait pas à ça. Mais un enfant de Dieu qui vient dans la présence de Dieu ne doit pas être dans un mode habitué, ne doit pas être dans un mode de routine, mais doit être dans un mode de découverte. Pourquoi un mode de découverte? Parce qu'il se dit que Dieu a quelque chose de plus dans sa vie. Je dois encore connaître quelque chose de plus. Hier, Dieu m'a montré quelque chose, mais je ne peux pas m'arrêter là, je fais encore une nouvelle chose. Dans la routine, quand on regarde le livre de Psaume, dans la parole de Dieu, Psaume a 150 chapitres, et dans les 150 chapitres, tout dépend de la tradition, on parle d'environ la moitié dont David est l'auteur. Et l'autre moitié, c'est-à-dire environ 75, il y a près de 50 où l'auteur n'est pas précisé. Mais dans ce que David nous révèle, David ne parle pas de la même chose dans les 75 versets ou bien chapitres qu'il nous parle. Il ne nous parle pas de la même chose. Et il dit même qu'il est dans la joie quand on lui dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Pourquoi? Parce qu'il sait que là-bas, il va découvrir quelque chose. Ce n'est pas une joie de retrouver les frères, ce n'est pas une joie juste de vivre, mais c'est une joie de saisir quelque chose de plus de son maître, de son créateur. C'est quelque chose de plus qu'il veut apporter dans nos vies. C'est quelque chose de plus qu'il veut ajouter dans cette relation. Parce que notre relation avec Jésus n'est pas figée, c'est une relation vivante. Et dans cette relation vivante, il y a la quête de connaître. Amen. Vous êtes là? Ok. Dans le livre de Osée, chapitre 6, les trois premiers versets, ici dans le contexte, Osée prophétise pour l'État du Nord, c'est-à-dire l'État d'Israël, qui était beaucoup tourné vers les dieux de Baal. Et il savait que c'est Baal qui donnait la fertilité des sols, dont la récolte, la production. C'est Baal qui donnait même les pluies pour qu'ils puissent s'aimer. Mais cependant, ils ont gardé l'habitude de donner les holocaustes à l'Éternel. Ils ont continué à faire des sacrifices à l'Éternel. Mais c'est là où il vient, il dit, « Venez, tournons-nous à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. » Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Ça, c'est la phrase qui m'intéresse. Cherchons à connaître l'Éternel. Ça veut dire qu'on ne le connaît pas assez. Même si je suis là depuis 20 ans, depuis 30 ans, ce n'est pas quelque chose que je connais déjà pour dire j'ai déjà le monopole de connaissance avec Jésus. Non. Mais il dit, cherchons à connaître l'Éternel. Chercher à connaître l'Éternel, ça veut dire qu'est-ce qu'il va faire de nouveau? Quelle est cette partie de ma vie que je dois lui céder? Qu'est-ce que je dois remettre entre ses mains pour qu'il m'amène là où il veut m'amener? C'est ça la relation vivante avec Dieu. La relation vivante ne doit pas être figée. La relation vivante ne doit pas être quelque chose qui est passé. Si je prends le cas de nos musiciens, si un musicien déjà connaît jouer les gammes majeures, do, fa, sol, do, en gamme majeure, il va très bien jouer, mais quand il va commencer à jouer certains chants qui ont des mineurs, il va mal les jouer. Il va déformer la nature du son parce qu'il ne connaît pas les mineurs. Mais s'il intègre dans son apprentissage, il se dit, je sais déjà jouer, je peux jouer telle gamme, alors il faut que je cherche encore davantage à creuser. Et les musiciens qui sont les bons musiciens, c'est les musiciens qui sont toujours en train de chercher. J'espère qu'ils ne me diront pas le contraire ce matin. Ils sont toujours en train de chercher à améliorer. Pourquoi? Parce que l'amélioration, c'est ce qui amène la perfection. Dieu veut qu'on soit parfait. Mais si on reste avec les notes fondamentales qu'on connaît, les notes de base qu'on connaît, on ne pourra pas découvrir ce que Dieu veut faire avec nous. On sera en train de vivre la vie chrétienne diluée, la vie chrétienne dégradée. Pourquoi ? Parce qu'il manque les ingrédients appropriés. Il manque les mineurs dans cette chanson et pourtant ça en prend. Mais Dieu voudrait qu'on apprenne à le connaître. La relation vivante, c'est de chercher à connaître Dieu. Amen. Dis-moi ton frère, ta soeur à côté de toi, cherche à connaître Dieu. On a besoin de connaître Dieu. Amen. On le connaît déjà, mais pas assez. On cherche encore à le connaître. Jusqu'à ce qu'il vienne nous enlever de ce monde. Tant que nous sommes encore dans ce monde, cherchons à le connaître. Même si ça fait 50 ans qu'on est là, il y a quelque chose encore que Dieu peut te dire. Amen. Et l'un des plus grands ennemis de la puissance de Dieu dans un croyant, ce n'est pas le diable, mais c'est la familiarité spirituelle avec le sacré. Lorsqu'on devient trop familier avec les choses de Dieu, il y a un blocage qui s'installe. On ne peut plus continuer à recevoir d'autres choses que Dieu veut nous donner. Rappelons-nous une chose, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à Bethléem. Pourquoi? Parce qu'on était familier avec lui. On savait que c'est le fils de Joseph, c'est le charpentier. On l'a vu grandir, on sait ce qu'il va nous dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a de Dieu derrière cela? La familiarité, c'est l'ennemi, c'est en quelque sorte un cancer silencieux de la croissance spirituelle. Mais lorsqu'on est dans la quête, je veux savoir, je veux recevoir quelque chose, je veux faire quelque chose, alors on avance. N'oublions pas une chose, il faut toujours être insatisfait avec ce qu'on connaît de Dieu. Je connais Dieu, mais je suis insatisfait. L'insatiabilité de le connaître. Amen. La deuxième chose que j'ai dit que je vais parler dans la relation vivante et engageante, c'est de savoir s'occuper de ce qui le préoccupe. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne s'entendent pas. Qu'est-ce qui préoccupe le Seigneur Jésus-Christ? La Bible dit dans Luc 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Les choses de Dieu, la maison de Dieu, est-ce que ça brûle encore dans ma vie? Rappelons-nous au temps de Néhémie. Néhémie était échanson dans la maison du roi. C'était un poste de responsabilité. C'est lui qui devait goûter les vins et c'était une très grande confiance. Mais dans cet état, quand il a appris que la maison de l'Éternel était dévastée, que le pays était en ruine, cela est venu déstabiliser son confort. Il s'est mis à jeûner, à prier. Il est sorti de son confort. Quand la dernière fois as-tu entendu quelque chose de Dieu jusqu'à tu as senti, tu as pleuré dans ton âme? Quand as-tu senti une nouvelle de l'Évangile, que les âmes meurent tous les jours, les gens partent tout droit en enfer, jusqu'à tu es resté, tu as eu des frissons dans ton cœur? La relation vivante et engageante, c'est une relation qui ne nous laisse pas neutre. C'est une relation qui nous engage à faire quelque chose. Jésus est venu chercher sauver ce qui était perdu. Nous aussi, on était perdus. Alors, il faut qu'on se sente préoccupé de ce qui le préoccupe. Parce que si on ne le fait pas, on va vivre notre relation dans le passé. Je me rappelle, dans le bon vieux temps, je faisais ceci, je faisais cela. Mais Dieu, ce matin, voudrait que nous sortons de cette routine, de cette inertie, de cette neutralité pour pouvoir faire un pas vers lui. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dieu veut que tout le monde parvienne à la repentance. Dieu veut que l'évangile puisse avancer. Dieu veut que l'évangile puisse aller loin là où on ne peut pas arriver. C'est pour cela que nous soutenons les missionnaires qui sont en terre étrangère, qui sont là où on ne peut pas arriver. Mais comment est-ce que nous nous sentons impliqués dans ce qui le préoccupe? Et dans Matthieu 25, verset 40, « Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Jésus veut qu'on aille vers ceux-là qui en ont besoin. Et toutes les fois on le fait, ce n'est pas à eux, mais c'est à Jésus qu'on le fait. Voici ce qui préoccupe. Jésus a vu la foule, il a pleuré. Il fut ému, il n'est pas resté indifférent. Il ne faut pas que notre relation aujourd'hui nous rende indifférents. Il ne faut pas que notre relation avec Jésus nous rende neutre pour dire on n'a pas d'effort à faire. Dans Jean chapitre 20, verset 21, il leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Donc la relation avec Jésus que nous avons, c'est une relation vivante et engageante. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc quelqu'un qui vit cette relation avec Jésus, c'est quelqu'un qui vit comme un envoyé de Jésus. Qui vit sur la terre comme un envoyé de Jésus. Le prolongement de la main de Jésus, le prolongement de la bouche de Jésus, le prolongement des pieds de Jésus. Là où Jésus n'est pas arrivé, tu peux arriver, tu fais ce qu'il devait faire. C'est ça la relation vivante et engageante. Amen. Et je vais clôturer par le dernier point. Une relation vivante et engageante, c'est aussi s'engager de vivre pour lui. Donc, si on vit, on ne vit plus pour nous, on vit pour lui. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 13 à 15, « En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Et si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, si nous vivons, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Si je ne vis plus pour moi-même, ça veut dire que quand je me lève le matin, je dis, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Beaucoup de nos prières matinales, c'est, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela, c'est vrai. Mais dans notre prière aussi, c'est de demander à Dieu, quel est ton agenda pour moi dans la journée? Que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Où vas-tu diriger mes pas aujourd'hui? Dans cette relation, on a besoin de comprendre beaucoup de choses parce que Dieu est fidèle. Dieu ne veut pas simplement qu'on vive hors de lui, mais Dieu veut qu'on vive avec lui. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société aujourd'hui qui valorise l'autonomie, l'indépendance. On veut qu'on fasse nos choses de nous-mêmes. Mais pour nous, un enfant de Dieu, la prière n'est pas une option. La prière, c'est la clé du règne céleste. Amen. La prière n'est pas une option. Quand tu ne pries pas le matin, en d'autres termes, tu es en train de dire à Dieu, « Laisse, je peux m'occuper de ma journée. Je peux m'occuper de mon mariage. Je peux m'occuper de mes affaires. Je n'ai pas besoin de toi aujourd'hui. » Mais vivre pour lui, c'est-à-dire dépendre de lui. Que veux-tu que je fasse aujourd'hui? L'héritage que nous avons, ce n'est pas quelque chose qui est éphémère, mais c'est quelque chose qui dure éternellement. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu a la possibilité d'envoyer les anges faire son œuvre. Mais Dieu nous choisit et nous dépendons de lui. Si on dépend de lui, c'est pour dire, Seigneur, je veux vivre ta vie. Je veux que tu orientes mes pas. Je veux que tu me diriges. Je veux que tu me donnes ton agenda de la journée. Je ne veux pas faire ce que je veux. Paul, dans Galates 2, 19, il dit, c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je vis maintenant dans la chair. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, Paul ici comprend que vivre de Dieu, vivre pour Dieu, c'est dépendre de lui. Ce n'est plus que je m'occupe de mes choses. Ce n'est plus que je suis centré sur moi, mais je suis centré sur ce qui le préoccupe. Je vais inviter les musiciens à venir me retrouver. Donc, si Dieu nous interpelle pour vivre cette vie, alors il y a quelque chose qui doit se passer. Et la chose qui doit se passer, ce n'est pas pour te condamner ce matin de ta relation avec lui. Si ce matin, j'allais poser la question, si ta relation avec Jésus était un indicateur de réseau sur ton téléphone, combien de barres en aurais-tu? Combien de barres de réseau en aurais-tu dans ta relation avec Jésus? Mais notre relation avec Jésus, ce n'est pas pour nous condamner, ce n'est pas pour nous dire que non, tu as mal fait, mais c'est une relation qui nous pousse à sortir de la routine. Si cette relation était un peu distante, c'est un appel d'amour à bras ouverts où il dit, Seigneur, je veux réviser ma relation avec toi. Peut-être j'ai été un peu distant. Peut-être je ne m'occupais pas de ce qui te préoccupe. Peut-être je ne vivais pas comme tu le voulais. Mais ce matin, je veux tourner une nouvelle page. Je veux entrer dans une nouvelle saison. Quand on fait une série d'enseignements comme celui-ci, ce n'est pas pour juste être des bons messages, pour qu'on dise oui, c'est un bon message, c'est une bonne prédication, mais c'est pour dire je fais un pas de plus dans ma relation avec Dieu. Je veux connaître Jésus davantage. Je veux prier davantage. Je veux chercher à découvrir sa parole. Je veux chercher à passer des temps. Lorsqu'on dit connaître, c'est dans une intimité. Je veux rester un chrétien qui peut vivre la vie de Dieu en dehors du dimanche matin. Parce qu'il ne faut pas que je sorte le dimanche matin, tout s'arrête, j'attends encore l'autre dimanche pour revenir. Mais une relation vivante et engageante, c'est une relation là où je viens, je dis non, je veux vivre mon quotidien avec toi. Je veux me rapprocher de toi, je veux prier pour lui, je veux faire beaucoup de choses avec lui. Ne cherchons pas seulement des choses pour nous, mais cherchons des choses du royaume. Cherchons des choses qui intéressent Jésus. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne s'entendent pas. Alors Dieu voudrait qu'on sorte de la routine. Dieu voudrait qu'on sorte de notre confort, qu'on se sente préoccupé de ce qui le préoccupe. Dieu voudrait qu'on dépende de lui pour dire, Seigneur, c'est quoi ton agenda pour moi dans la journée? Où est-ce que tu voudrais que j'aille? Que voudrais-tu que je fasse? Quelle personne voudrait que je bénisse? Pour quelle personne voudrais-tu que j'aille prier? Quelle est la personne qui a besoin d'écouter la parole de Dieu? Jésus dit dans Jean 15 que je suis le cep, vous êtes des sarments ou des rameaux. Le sarment ne vit pas juste à côté du cep, mais il est connecté à la sève du cep qui le nourrit au quotidien. Donc nous devons vivre la vie avec Jésus pour une vie quotidienne. C'est ça aussi cette relation engageante avec nous. C'est pour cela, si tu sens que quelquefois ta relation a été déséquilibrée avec lui, je voudrais que tu puisses te lever. Ce n'est pas pour te condamner, mais c'est juste un appel d'amour pour dire je veux encore faire quelque chose de plus. Je veux encore m'engager avec toi. Je veux encore avancer avec toi. Tu peux te lever, te tenir sur tes pieds. Tu pries cette prière qui est sur l'écran. Tu dis, je reconnais que ma relation avec Jésus parfois a été asymétrique. Elle a été quelquefois centrée sur moi. Elle a été quelquefois instable. Mais par ta grâce, rends ma marche avec toi ferme, constante et entièrement centrée sur Christ. Fais de moi un disciple engagé, fidèle, inébranlable. Est-ce que tu peux reprendre cela en tes propres mots? Tu parles à ton Dieu ce matin. Il a besoin de t'écouter. Père, merci ce matin pour ta parole. Laisse à ce qu'elle trouve de la place dans nos vies et qu'elle nous transforme comme tu veux que nous soyons transformés. Que notre relation ne soit pas une relation de routine basée sur le passé, mais une relation vivante où nous dépendons de toi tous les jours. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.